Le 28 janvier, l'église. Fête Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique, docteur principal de l'église. Un jour, j'avais été comme ça dans une heure. J'avais pas 30 ans et j'avais été dans une congrégation, dans une, qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait des. Et l'aumônier, enfin le prêtre qui était là, donnait des explications deux fois par semaine, pour une catéchèse, quoi, pour les pauvres, pour les enfants aussi. Et puis, je me suis confessé à lui. Et puis ça faisait longtemps, j'étais un jeune, un militant, depuis toujours. Il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, les deux seules armes minimum du chrétien, c'est le rosaire et la somme de saint Thomas d'Aquin. C'est les deux armes minimum du chrétien. Mais quand il m'a dit ça, il a bien vu que c'était important de me le dire. Et j'avais jamais entendu dire, en 20 ans de vie militante, que saint Thomas d'Aquin existait. Et alors, qu'est-ce que j'en ai lu comme livre? Qu'est-ce que j'en ai lu comme réunion, comme enseignement, comme méditation, comme... Voilà, tu devrais lire ce livre, mais saint Thomas d'Aquin, ça ne m'était jamais arrivé, aucun prêtre, jamais, aucune catéchèse, aucun... C'est vrai, c'est ce que l'Église dit. Saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur principal de l'Église. Docteur dans les groupes de prière, dans les groupes de Saint Thomas d'Aquin, dans les pèlerinages, dans Saint Thomas d'Aquin. Voilà, Saint Thomas d'Aquin, c'est... C'est le docteur principal. Il y a la Bible, bien sûr, il y a les... On peut recevoir quand même la doctrine de Jésus. Jésus nous enseigne quand même, nous transmet, comment dire, les secrets du ciel et sa vie, pour qu'on puisse participer à sa propre vie. Et bien sûr que Jésus nous donne ça. C'est dans l'Écriture, mais l'Écriture toute seule, non. Parce que l'Écriture toute seule, les Juifs eux-mêmes vont vous dire, si vous ne connaissez pas la doctrine, la transmission orale, il vous est strictement impossible, mais impossible, de savoir ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la Torah. C'est strictement impossible. Si vous lisez la parole de Dieu tout seul, vous n'aurez jamais la foi. Jamais. Parce que vous ne saurez pas, vous ne saurez pas porter cet écrit, ce que dit Jésus au scribe, en disant vous enseignez l'écrit, mais vous interdisez les gens de rentrer dans la doctrine. Vous n'y entrez d'ailleurs pas vous-même. Et vous amenez comme ça les gens dans la GN. Alors, l'Église, c'est vrai, apostolique, a toujours privilégié la doctrine. D'ailleurs, quand on regarde le temps des apôtres, il n'y avait pas, les quatre évangiles n'existaient pas, les épîtres, elles existaient pour une centaine de personnes, c'est tout, de temps en temps, quoi, et encore, il a fallu attendre quand même drôlement longtemps avant qu'il y ait la canonicité des Écritures dans le Nouveau Testament, et même la canonicité des Écritures de l'Ancien Testament. Mais même, tu ne pouvais pas donner la canonicité des Écritures, même dans l'Ancien Testament, sans avoir la tradition, la doctrine orale, la transmission orale. Et c'est pour ça qu'il y a des docteurs de l'Église. C'est pour ça qu'il y a des... C'est pour ça que l'Église apostolique, elle est forcément... Elle ne se base pas sur l'Écriture, elle se base, on le sait aujourd'hui, sur l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, elle transmet oralement des secrets divins. Et ça va se traduire, le Saint-Esprit va susciter, ça, tout au long, dès le départ d'ailleurs, un rappel par voie orale de la transmission immaculée de l'Évangile. Alors bien sûr, il y a l'Évangile, il y a les textes, les quatre Évangiles, les Épîtres, l'Apocalypse, etc. Bien sûr, ils existent, mais si ils ont été portés à la surface, si je puis dire, après deux siècles de tradition doctrinale infaillible, orale, et puis ça c'est les Évangiles, tout ça c'est juste l'iceberg est apparu. Alors aujourd'hui, moi j'avais 25, 28 ans, 20 ans, peu importe, on ne me l'avait jamais dit ça, et tu la Bible, c'est tout, voilà. Il y a quelque chose dans l'Église, il y a quelque chose dans le christianisme, disons, hein, après les années 50, qui fait que on a écarté la doctrine infaillible de l'Église. Voilà. Et c'est à cause de ça que saint Thomas d'Aquin, vous pouvez passer toute une vie dans l'Église catholique sans avoir jamais lu saint Thomas d'Aquin, même pas un mot, rien, rien. Vous savez, c'est tout à fait normal, ça c'est le truc. Mais non, c'est le docteur principal de l'Église. C'est le docteur principal de l'Église. Par exemple, il a fait, parmi tous les enseignements qu'il a donnés, il a donné la somme de saint Thomas. La somme. Il a dit, il faut quand même faire un résumé pour les débutants. Alors ça s'appelle la somme. Là, c'est beau, la somme. Et l'Église, elle demande par exemple que les prêtres dans les séminaires, ils aient lu au moins une fois, ils aient étudié au moins une fois. Tu as la main, la somme, quand même, saint Thomas d'Aquin. Le minimum pour les débutants, quoi, minimum. Oui, mais c'est un fait que les prêtres d'un séminaire peuvent passer 10 ans de séminaire sans avoir jamais lu saint Thomas d'Aquin. À aucun moment. Ce qui explique la pauvreté, quelquefois. Et que leurs prônes, leurs enseignements, sont des enseignements, bon, qui sont chrétiens. C'est l'Évangile. C'est une espèce de targum, c'est-à-dire, on répète l'Évangile d'une manière différente. Mais c'est pas la doctrine de l'Église. Voilà. Il m'avait dit ça, ce prêtre, c'est vrai. Ça m'avait surpris. La somme de Saint-Thomas, effectivement. C'est à ce moment-là que j'ai été sur Fribourg en particulier, et j'ai commencé à ouvrir la somme de saint Thomas d'Aquin. Et j'en avais lu des centaines, peut-être, je sais pas, des milliers de bouquins sur le christianisme, sur Karl Rahner, sur rien, je dis n'importe quoi. Et là, l'espace de 3 mois, j'en ai appris plus qu'en 20 ans. Saint Thomas d'Aquin, c'est quand même quelqu'un, le pape disait à son sujet, il n'y a aucun traité, aucune question de la somme, par exemple, de saint Thomas d'Aquin qui n'ait été rédigée sans qu'il y ait une mission invisible du Saint-Esprit dans son âme pour le mettre pareil. Et c'est formidable, saint Thomas d'Aquin. Vous faites par exemple le traité de la Très Sainte Trinité. C'est extraordinaire. C'est un traité. Alors, comment ça marche, saint Thomas d'Aquin? Si un jour vous tombez, vous avez la chance de tomber dans une brocante où il y a un vieux truc de saint Thomas. avant que ça ait été brûlé par... Je sais pas. Pour n'importe quelle question que vous vous posez, n'importe laquelle. Je sais pas, il a traité, je sais pas, 4 à 5 000 questions, disons, dans la somme. Hein. 4 à 5 000 questions, je veux dire, c'est 4 à 5 articles. Dans une question, ordinairement, il va y avoir 5 ou 6 articles. Donc, peu importe, à chaque fois qu'il se pose une question, par exemple, n'y a-t-il qu'une sorte de grâce? Combien y a-t-il de grâce? Combien y a-t-il de sortes de grâces? Alors bon, nous on connaît la réponse. Hein. Il y a deux sortes de grâces. Il y a la grâce sanctifiante et il y a la grâce actuelle. Toutes ces deux sortes de grâces viennent de Dieu, viennent du ciel, viennent du Christ sur la croix. Elles se répandent et s'épanouissent et se rabondent dans notre âme. Et c'est surnaturel. Hein. C'est une participation à la vie intérieure du Christ. Et on l'expérimente comme de la lumière vivante. Et qui change et transforme. C'est une vraie participation à la vie intérieure de Dieu et du Christ. Mais il y en a une qui est actuelle, c'est-à-dire que elle est passagère, elle va durer pendant 30 secondes. Même d'ailleurs, ça arrive, comme par exemple les grâces infuses, pendant 3 ans. Dans 3 ans, je vais avoir une grâce actuelle. Mais ça s'arrête à un moment donné. Et ça ne sanctifie pas. Ça ne sanctifie pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour vous, un martyr qui donne sa vie pour l'Église, tout ça. Et donc, il est en communion avec des gens qu'il ne connaît pas. Et donc, la grâce qui est en lui vous porte. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre foi, ça ne vient pas de votre espérance, ça ne vient pas de votre... Non, ça vient de quelqu'un, ça vient de l'Église, ça vient des mérites de l'Église, ça vient du Saint-Esprit, mais c'est pour vous aider simplement à dire, tiens, la grâce existe. Et puis, elle disparaît parce que ça ne vient pas de vous. Et puis, il y a la grâce sanctifiante, elle s'arrête jamais parce qu'elle vient de vous. Vous avez fait des actes de foi et d'amour et de charité sous le souffle du Saint-Esprit qui fait que cette participation à la vie divine, cette sanctification, vous y coopérez, vous êtes rentré dedans, vous vous êtes fait violence pour obéir à quelque chose qui n'est pas habituel pour vous personnellement. Vous êtes rentré au-delà de votre religion, votre fidélité, vous avez dépassé, vous êtes rentré dans l'union transformante en somme. Hein. Et à ce moment-là, Dieu vous a donné effectivement une grâce qui augmente la grâce de votre baptême, parce qu'il n'y a aucune cause diminuante dans la grâce du baptême. Et de cette augmentation de la grâce sanctifiante ne pourra jamais diminuer et disparaîtra jamais. Et elle vous appelle à aller encore plus loin dans une grâce sanctifiante plus grande. Et une grâce sanctifiante, c'est une grâce qui ne reste pas la même, à laquelle on s'habitue jamais d'ailleurs, parce qu'il faut aller toujours encore beaucoup plus loin dans la grâce sanctifiante, sinon on tient la preuve qu'on n'a pas la grâce sanctifiante. Parce qu'une grâce sanctifiante qui n'augmente pas, c'est une grâce actuelle en fait. Voilà. Bon, alors là, ça on connaît la réponse. Il y a deux sortes de grâces. Et dans Saint Thomas d'Aquin, lui, il dit, les gens, quand même, on le sait, le Seigneur le sait, ils savent pas quelle est la différence entre les deux. Au moment où ils sont là, est-ce que je suis dans un état de grâce? Saint Jean d'Arc le savait, il dit, moi, est-ce que je suis dans un état de grâce? On lui pose la question pour lui poser un piège. Au moment de son procès. Donc il dit, voilà, les gens, ils pensent, t'as la grâce, oui, mais la grâce, voilà, t'as la grâce, des moments, t'es en paix, voilà, et c'est ça la grâce, puis c'est tout, t'as la grâce de guérir les malades, voilà, t'as la grâce de guérir à Lourdes, Voilà, la grâce, pour eux, c'est ça, la grâce, c'est des petits points de temps en temps, quoi, pour eux, voilà, des petites aides, des... Voilà, donc saint Thomas d'Aquin, il va prendre toutes les manières dont les gens qui ont fini par quitter la grâce sanctifiante vont répondre faussement, hérétiquement, d'une manière qui n'est pas juste, quoi, du tout, qui ne correspond pas du tout à la doctrine de Jésus, à ce que Jésus enseignait les apôtres. Et voilà, donc non, pas du tout. Il va reprendre toutes les opinions spontanées des gens qui sont pratiquants aussi. Hein. Voilà. Il y a la grâce, voilà, bah voilà, oui. C'est ça, la grâce, c'est ça, la grâce fonctionne comme ça. Il n'y en a pas deux, il n'y en a plus, il y en a des centaines de grâces. Bon, il n'y en a pas deux. Voilà. Et à chaque fois qu'il se pose une question, il regarde les réponses spontanées des bons cathos, quoi. Hein. Elles sont toutes fausses. Alors, une fois qu'il a déroulé tout ça, tout le monde se reconnaît. Mais oui, voilà, ça c'est bien. Et en plus, il cite saint Augustin pour dire, bah oui, même saint Augustin a dit, alors donc, c'est drôlement bien pour ça, saint Thomas. Donc il reprend les opinions, mais si tu prends une paire de ciseaux de saint Augustin, tu fais que ça, et tu arrives, il dit, mais oui, mais enfin, il a dit ça dans un certain contexte. Voilà, donc, il reprend toutes les opinions fausses, les réponses fausses. Tout le monde se reconnaît, tu te reconnais, tu dis, mais oui, c'est vrai, bah oui, bah non, rien. Oui, bah ça, je comprends très bien que ce type-là, il dit ça, bon. Et puis, à un moment, il s'arrête, il dit, bon, maintenant, on va s'arrêter avec la perte de temps, hein, donc, mais c'est bien quand même de reconnaître là où les chrétiens perdent un temps fou, quoi. Ils vont rester avec une hérésie dans leur manière de vivre pendant 50 ans. Ils auront perdu 50 ans. Alors, il dit stop, maintenant, voilà. La doctrine orale, la doctrine infaillible de l'Église, elle dit ça, voilà, elle a autorité. Et avec son autorité, elle proclame ça de manière expresse. Si la réponse, c'est ça. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ça paraît incroyable, une chose pareille. Mais pendant les temps du christianisme, jusqu'en 1650 à peu près, jusqu'au XVIIe siècle, tout le monde savait que la doctrine passait devant l'écriture, puisque l'écriture en est une émanation. Alors, et puis après... Il dit, mais comment se fait-il qu'avec quelque chose d'aussi solide, d'aussi net dans la doctrine infaillible, d'aussi simple aussi finalement, comment se fait-il que tout le monde pense autre chose, qui est faux? Alors, il donne ensuite, donc, on appelle ça le corpus de chaque question, il donne 7-8 lignes où il explique pourquoi la vérité dogmatique de l'Église, pourquoi cette expression de vérité doctrinale, infaillible, s'exprime de cette manière-là. Il donne une explication. C'est là où il est théologien. Et puis ensuite, il dit, bon, maintenant, on va reprendre chacune des mauvaises des opinions fausses, finalement, des erreurs, quoi, que font les gens dans leur... et du coup, ça implique, du coup, dans leurs actes, une vie, ils vont organiser leur famille, ils vont organiser leur maison, ils vont organiser leur pratique des sacrements en fonction dans la ligne de quelque chose qui finalement est hérétique. Donc il va reprendre chacune de ces mauvaises réponses et expliquer en quoi elles sont fausses. Et il le fait pour environ 5000 interrogations courantes qu'on peut se poser, quoi. N'importe laquelle. Comment fonctionne le cœur spirituel, notre capacité d'aimer humainement? Comment fonctionne je sais pas moi, n'importe, tout ce que vous voulez, l'ange, l'ange, comment, l'ange, comment, il vit comment, le monde angélique, bon, un seul ange, déjà, un seul ange, bon, d'accord, ils existent, oui, mais est-ce qu'on peut savoir ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de quelle manière leur vie spirituelle s'actue, se répand, se dilate, se reçoit elle-même, sa manière de percevoir, d'aimer aussi. Est-ce qu'il a la mémoire de sa création à partir de rien? Est-ce qu'il a une relation avec moi, avec nous, avec l'Église? Ouais, bref. Sur le traité des anges, c'est passionnant. Hein. C'est passionnant, le traité des anges, c'est vraiment génial. Le traité de la grâce, le traité de la très sainte Trinité, le traité du Christ, le traité de l'union hypostatique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, moi j'ai fait un jour quelqu'un me voir, il m'a pris en vidéo là sur internet, il m'a dit voilà, et puis il m'a dit voilà, et donc j'ai parlé à un moment donné, j'ai dit voilà, un truc, mais dans le traité du Christ, bah oui, le Christ c'est l'union hypostatique quoi. Et c'était des gens qui avaient fait des séminaires, qui étaient venus m'interroger, hein. Attention, des séminaires. Hein. Union hypostatique, c'est quoi? Alors, j'ai dit, ben oui, union hypostatique, c'est... Union hypostatique, c'est... Et saint Thomas d'Aquin, il y a le traité de l'union hypostatique, qui fait quand même 150 pages. Parce que dans le traité de l'union hypostatique, il y a au moins, il traite des questions élémentaires très importantes. Très importantes. Si on veut pénétrer et que Jésus, vive en nous, dans son union hypostatique, elles sont très importantes. Sinon, notre vie contemplative, notre contemplation, c'est-à-dire notre lumière intérieure, notre vision, notre expérience, de l'intimité vivante n'est pas lumineuse du tout. Elle n'est pas du tout éclairée. Donc, si c'est le cas, je ne peux pas rentrer dans la vie illuminative. Donc je cale tout le temps dans ma transformation chrétienne à la première et deuxième demeure. Je ferai toujours. Je ne rentre jamais dans la vie illuminative. Jamais. Jamais. Je ne rentre jamais dans la troisième, quatrième et cinquième demeure. Jamais. C'est très ennuyeux. Donc j'ai parlé union hypostatique, transverbération, c'est des trucs très 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 élémentaires quoi. Et ben voilà, le fait d'avoir abandonné la doctrine infaillible de l'Église, les docteurs infaillibles de l'Église, fait que le gros des brebis du troupeau ben, se trouve sans berger évidemment, sans direction. Alors le Concile Vatican II rappelle que le principal de la foi est nourri par la doctrine infaillible du magistère de l'Église. Voilà, et donc un jour comme la fête de saint Thomas d'Aquin, un jour comme le 28 janvier aujourd'hui, il faut le dire ça, il faut le dire, attention, on ne peut pas rester... Jésus, combien de fois on le voit aujourd'hui encore, il passe son temps à enseigner. Il enseigne. Et il passait des heures et des heures et des heures à enseigner la foule. C'est vrai, c'est quelque chose de très extraordinaire. Là, aujourd'hui, il leur dit, voilà, j'ai une maman, j'ai une mère, j'ai des frères, très bien. Mais c'est quoi le secret? Être la mère? Être le frère, la sœur du Messie? Être la mère du Messie d'Israël, qui était dans le principe de tout ce qui existe, d'après la tradition des docteurs de la Torah, des docteurs de l'Ancien Testament, D'après la Kabbalah, c'est une doctrine infaillible. Être la mère de la manifestation de Dieu sans voile, il n'a plus besoin des prophètes, il est directement présent. Être l'engendrant de ce que je suis, c'est qui ? C'est qui ? C'est pas du tout. Voilà, le fait de porter physiquement un embryon, et il se trouve, tiens, hop, ah, ça vraiment, on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, moi, c'est comme femme, parce que tiens, il se trouve, on découvre petit à petit que c'est le Messie, quoi. C'est pas ça du tout. Il dit, c'est pas ça du tout. Ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont la volonté de Dieu. C'est parce que ils ont laissé leur volonté à eux et ils ont compris que c'était la volonté de Dieu qui devait remplacer leur volonté à eux humaine. Mais leur volonté à eux humaine, elle est parfaite, elle est pleine de grâce, elle est, hein, surtout Marie, on sait bien, elle est parfaite, elle est immaculée, elle est simple. Si elle avait fait sa volonté, elle aurait fait des merveilles. Elle aurait fait des merveilles, ça aurait resplendi sur la surface de la terre tout entière en quelques années, en quelques mois. Si elle avait fait sa volonté, elle était tellement plénitude de grâce, immaculée conception. Non, eh ben, elle n'a pas fait sa volonté. Elle a fait la volonté de Dieu. Elle a laissé sa volonté humaine si parfaite, si sainte, si immaculée, si en plénitude de grâce. Dès le départ, avant la naissance, elle était plénitude de grâce, sous le souffle du Saint-Esprit. Elle avait la capacité, avec sa volonté humaine transformée et sainte, elle avait la capacité de réaliser par surabondance la transformation de la nature humaine tout entière. Elle avait la capacité, beaucoup plus que... Je sais pas, sans comparaison, il n'y a pas de comparaison de toute façon. N'existe pas. Mais non, elle a renoncé à sa volonté humaine. Elle a dit qu'il soit fait selon la volonté éternelle de Dieu, selon la sagesse de la croix. Et Jésus lui-même, il a fait la volonté du Père dans sa nature humaine. Il a renoncé à faire sa volonté parfaite, humainement. Lui qui était source dans sa grâce capitale, de toutes les grâces sanctifiantes du monde, renonçait à vivre en raison de sa puissance royale, voyez, pour vivre la croix. Parce que c'était la volonté du Père qui soit envoyé, reçu, immolé, dans le mystère de la croix, dans la sagesse de la croix, dans la lumière de la croix, et qu'il ne soit communiqué au monde et à la glorification éternelle de Dieu qu'à travers la croix glorieuse. Ces 36 heures entre l'instant de sa mort et l'instant où Marie engendre en raison de la volonté éternelle de Dieu en lui la résurrection de la chair. Et Jésus enseigne en disant, voyez la grâce. Ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui écoutent le Verbe de Dieu, lorsqu'ils réalisent la volonté éternelle du Père, et qu'ils font la volonté du Père, voilà, c'est elle. Si vous voulez savoir qui est Marie, c'est elle. C'est celle qui a fait ça, celle qui dit oui, qui vous a fait selon la volonté éternelle de Dieu. Extraordinaire, hein? Mais Jésus enseigne et donc au jour de Saint Thomas d'Aquin, on sent bien quoi. On dit, qu'est-ce que je pourrais lire comme message? Ah ben laisse tomber les messages s'il te plaît, hein. regarde au moins un minimum, quoi, le message du corps mystique de Jésus, quoi. Du corps mystique de lui. Au moins le message, quoi, du Christ, quoi. Un minimum, quoi. La tradition a failli sortir de la bouche du Christ. Le magistère et l'Église le résume, si je puis dire. Ah, c'est vrai, c'est tellement important. Faut lire, quoi. Faut pas lire, faut entendre et faire. Pour ça, faut aimer énormément la vérité tout entière. Faut chercher la vérité. Ah. Eh bien, je vous assure que saint Thomas d'Aquin était quand même quelqu'un. Un jour, j'ai vu comme ça une photocopie d'un papier, quoi, d'une petite page, c'était petit, vraiment petit comme une main, quoi, où il écrivait, hein, questions disputées, enfin, vous voyez, questions disputées. Et tu lisais ça, même si tu connais parfaitement de la date, tu pouvais pas lire ce qu'il disait. C'était des signes, quoi, un peu comme sa tête de garde, c'était des signes. En fait, si tu prenais une page écrite par saint Thomas d'Aquin, ça correspondait à peu près à 80 pages qu'on met en édition, quoi, c'est ça. Oui, parce que, et si ce signe-là, ça voulait dire, un petit signe comme ça voulait dire tout un développement qu'il y avait par rapport, je sais pas moi, au sacerdoce du Christ, dans la question disputée 1742, je sais pas quoi. Alors, il avait une intelligence fulgurante. Il n'y a jamais eu de génie au niveau de l'intellect du nous, de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle était juif, hein. La famille d'Aquin, c'était des juifs, hein, qui s'étaient convertis. C'est comme la famille Martin qui a donné finalement après. Ça a donné Saint-Thérèse d'Enfant Jésus. C'est comme ça, Saint Paul. C'est pareil, c'était des familles d'origine. Qui s'était converti. Donc, c'est la famille d'Aquin. C'est des gens, l'intelligence, elle est éduquée, si vous voulez, hein, elle est éduquée, l'intelligence. Dès la période embryonnaire, c'est la tradition juive, ça. Hein. C'est pour ça que les juifs n'ont pas un cerveau différent du nôtre. Mais ils ont respecté la tradition orale et ils ont éduqué leurs enfants de manière que ça ne devienne pas des barbares. Mais ils ont le même cerveau que nous. Le même cerveau. Exactement le même. Mais voilà. Et donc, saint Thomas d'Aquin avait une intelligence, disons, normale, puisqu'il était juif. C'était pas nous les Gaulois, on est des barbares. On est grotesques. C'est grotesque. Ça fait peur, même. Bon. Peu importe. Et donc, et en plus, il cherchait la vérité depuis qu'il est petit, même avant la naissance et tout ça. Et l'Église a canonisé saint Réginald parce que lui était capable de lire ce que saint Thomas d'Aquin avec ce qui est strictement impossible, je peux vous dire. Donc ça pouvait être qu'un miracle. De pouvoir lire, ça pouvait être que miraculeux. Donc ça, saint Réginald l'a canonisé uniquement à cause de ça, parce que capable de lire saint Thomas d'Aquin dans le texte. Pour vous dire. C'est pour vous dire, c'est quand même extraordinaire. Ben, quand il faisait donc une page, il l'avait fait en 30 secondes. Moi, qui estime ne pas être complètement idiot, cette page-là, il faut un mois pour l'étudier. C'était une intelligence fulgurante. C'est le plus grand génie. Une intelligence simplifiée, une intelligence simplifiante, une intelligence chanique, une intelligence... Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un n'aime pas la vérité. Il ne pouvait pas l'imaginer. Un jour, il était dominicain, donc il était... Voilà, il était un peu à l'étage, et il y a deux dominicains qui disent, tiens, on va se moquer un petit peu du frère Thomas, ouais. Oh là là, mais il y a une chose extraordinaire dehors, là, dans le pré. Ah mon Dieu, mais la vache du frère Fernand est en train de... Elle est en lévitation, elle est en train de voler. Ah mais c'est incroyable ça. Ah frère Thomas, il faut que vous voyez ça, disons. La vache du frère Fernand est en train de voler. Elle est en lévitation. Alors lui, il dit, ah bon, il va à la fenêtre, il regarde, il dit, mais elle ne vole pas. Alors, ils se sont moqués de lui en disant, ah, frère Thomas, tu crois n'importe quoi. Alors il leur a répondu, écoutez, je ne sais pas. Une chose que je ne peux pas croire, c'est qu'un frère puisse dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, ça m'est strictement impossible de le penser. Je suis venu voir. Il vivait à l'époque de Saint-Louis. Il avait beaucoup d'histoires dans sa vie, mais vraiment, il était... Un jour, il était à la table du roi Saint-Louis à Paris, et puis, il disait, mais... Il dit, il y a quand même une question, quand même. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette hérésie-là, qui est tellement courante dans la plupart des catholiques? C'était sur le sacerdoce du Christ. Ou bien c'était sur la lumière de gloire, de la vision béatifique. Enfin, donc il était à la table du roi, il y avait beaucoup de monde et tout. Enfin, il n'était pas, que deux ou trois, etc. Et à un moment donné, il mangeait lentement. Et puis d'un seul coup, il se redessayait. Ah, j'ai compris. Alors le roi le regardait, de coin de l'œil. Le roi Saint-Louis. Et il a vu qu'il avait une... qu'il y avait quelque chose qui était arrivé à saint Thomas pendant son repas. Il avait compris quelque chose. Alors le roi a dit à son secrétaire, allez voir Thomas, prenez une tablette et qu'il écrive tout de suite ce qu'il a. Et alors c'est pour vous dire, qu'il était... C'était connu de son vivant que c'était un prophète. Enfin, ce n'est pas un prophète. Un prophète, c'est pas un docteur. Hein. Un docteur, c'est une grâce inouïe, quoi, d'être docteur de l'Église. Hein. C'est de pouvoir redire ce que Jésus, de sa bouche, a enseigné, mais qui a été oublié. Ce que Marie, hein, Jean, a enseigné, ils ont oublié. Qu'on a oublié, de le redire et de le réexpliquer de manière la plus claire possible. Et qu'on ne sorte pas de là. Et pour ça, il faut aimer vraiment la vérité. Quelqu'un qui aime la vérité, il aime saint Thomas, hein, ça c'est sûr.